Salut les optimistes, moi c'est Seb.
Et moi c'est Léna.
Bienvenue dans notre troisième épisode de l'optimisme de Prisme.
Où nous accueillerons Madame Bornier, la responsable du département DAP de BSB, et nous traiterons de sujets de la culture et son importance dans l'éducation.
C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme de Prisme. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer.
Bonjour madame, merci d'être venue avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Quel est votre prénom ?
Alexandrine.
Quel est votre surnom ?
Alors, beaucoup d'étudiants m'appellent Bobo. Voilà, mon surnom à BSB, c'est Bobo.
Une question à laquelle vous êtes libre ou pas de répondre. Votre âge ?
Je vais avoir 64 ans au mois de février prochain. Ma date d'anniversaire, c'est le 7 février. Donc, je vous attends tous pour que vous veniez me souhaiter un bon anniversaire.
Voilà. C'est noté.
Quel était votre parcours scolaire ?
J'ai fait des études de droit et j'ai une maîtrise en droit public à l'université de Bourgogne. J'ai fait en formation continue, une formation à la gestion.
Quelle est votre profession et association si vous êtes dans une association ?
Alors ma profession, je suis responsable du département développement et accompagnement personnel au sein de BSB. Et puis en termes d'association, je suis membre du Lions Club Dijon-Marie de Bourgogne.
Est-ce que vous avez des passions ?
J'ai beaucoup de passion, la lecture, j'adore aller au cinéma. Un petit truc, alors c'est vraiment sincère ce que je vais vous dire. Ma passion, c'est quand même le métier que j'ai depuis presque 38 ans, parce que ça fait 38 ans que je travaille à BSB. En tout cas, l'accompagnement des étudiants, c'est tellement passionnant que voilà, ça fait quand même partie de mes passions.
Quelle est votre chanson du moment ?
Eh bien, ma chanson du moment, c'est « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman, parce que justement, ça me... J'aime beaucoup d'ailleurs Jean-Jacques Goldman, je trouve que c'est quand même un des auteurs, compositeurs vraiment de qualité de ces dernières années. Alors je sais que je parle à des jeunes qui aiment plutôt le monde du rap ou de la techno, donc on est franchement sur deux mondes complètement différents. Mais moi je suis, j'ai toujours été très très attentive aux paroles et je trouve que Jean-Jacques Goldman, il raconte de belles histoires et voilà, Envole-moi en ce moment, elle m'inspire beaucoup.
Votre film préféré ?
Mon film culte, c'est Les Tontons Flingueurs. C'est un très très vieux film, mais qui est exceptionnel parce que c'est un film qui a été tourné dans des conditions vraiment économiques, vraiment très très limitées. Et c'est un film exceptionnel avec des acteurs exceptionnels. Lino Ventura sur un rôle comique qui est vraiment mais fantastique. J'adore ce film. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. C'est drôle, mais vraiment très, très drôle. Mais effectivement, c'est marqué, c'est d'une époque.
Et pour finir avec votre fiche d'invité, quelle est, s'il y en a une personnalité qui vous a beaucoup marqué ?
Alors, la personnalité qui m'a beaucoup marqué et qui continue de me marquer, c'est Winston Churchill. Je suis vraiment... c'est mon héros, en fait, pour moi. C'est presque un guide spirituel parce que c'est quelqu'un qui s'est débattu dans une période très très compliquée mais qui n'a jamais lâché et qui a quand même libéré le monde libre, il ne faut pas l'oublier. C'était en plus quelqu'un qui avait, qui aimait beaucoup la France et qui avait aussi des dons d'écriture, qui écrit bien. Et donc moi j'aime beaucoup la littérature, j'aime bien les phrases, les mots, donc voilà.
Il y a beaucoup de citations quand même de Winston Churchill.
Ah, bien sûr, oui, parce que c'est justement ses discours. Et il avait, en plus, il avait beaucoup d'humour. C'est un Anglais, donc il avait un esprit. Il était très spirituel, donc voilà. C'est quelqu'un de passionnant.
Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Et puis ce serait de savoir ce que vous avez fait, du coup, à la suite de vos études de droit. Quel genre de métier vous avez fait qu'est-ce qui, du coup, vous a amené jusqu'au métier que vous avez aujourd'hui ?
Alors, après mes études de droit, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait du machinisme agricole sur un poste de contrôle de dossiers d'acheteurs de machines agricoles. Mmh. Alors, ça a été très, très court parce que c'était vraiment pas très, très passionnant. Et puis, dans le cadre de cette entreprise, j'ai rencontré un enseignant. À l'époque, c'était École supérieure ou SUP de Codijon, parce que les noms ont changé beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec cette personne et j'ai intégré l'école pour justement m'occuper de la taxe d'apprentissage, qui est un impôt payé par les entreprises avec tout un environnement juridique derrière. Et puis, ça a été mon premier contact avec l'école. D'accord. Et puis, ensuite, je me suis occupée de formation continue à BSB, à SUP de Codijon, Après, j'ai intégré le service communication,
okay.
où j'ai été chargée de communication pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup appris dans le cadre de cette fonction. Je m'occupais quand même de la vie associative de l'époque parce que, justement, d'un point de vue communication, on mettait en avant les événements des associations. Donc c'était un peu informel. Je suivais, j'accompagnais les associations, mais plutôt de manière informelle. Après, je me suis occupée de relations entreprises, de relations diplômées. Et puis, j'ai intégré le département développement et accompagnement personnel il y a une quinzaine d'années en tant que chargée de projet, donc où je m'occupais du... Alors, le module s'appelle Impact aujourd'hui, il s'appelait PAC à l'époque, hein, Pédagogie par l'Action Citoyenne, de la vie associative. Le responsable du département a quitté ses fonctions et naturellement, on m'a proposé le poste. Et donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai ce poste. J'ai la sensation que tout ce que j'ai fait avant, même mes études de droit, parce que quand je travaille avec les associations, quand on relit des contrats, etc., mes connaissances juridiques m'aident beaucoup, et surtout pour le conseil aux étudiants. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai fait un chemin pour pouvoir arriver à ce poste aujourd'hui qui me convient parfaitement.
Quel était votre lien avec la culture quand vous étiez étudiante ?
Toujours aimé lire, j'ai toujours aimé aller... Alors le cinéma, vraiment, quand j'étais étudiante, il y a quelques fois, j'allais autant en cours qu'au cinéma. Peut-être un peu moins les musées, les expositions, mais malgré tout... Quand j'allais quand même de temps en temps sur Paris, j'allais voir quand même un peu des expositions, mais c'est surtout la littérature, la musique, bien sûr, la musique et la variété, parce que pour moi, c'est un art, la variété, parce qu'on se moque beaucoup de la variété française. On peut prendre un peu de hauteur et se dire que c'est une façon... À une époque, au Moyen-Âge, on avait des troubadours qui chantaient des chansons pour raconter ce qui se passait au niveau du royaume, etc., aujourd'hui, on a des chanteurs de variété, bon, beaucoup moins aujourd'hui, puisque le monde musical a beaucoup évolué. Mais la variété permet de parler de l'évolution du monde, de ce qui se passe dans le monde, de petites histoires, de grandes histoires. Et puis, bon, comme je vous dis, Winston Churchill, je lis beaucoup, alors Dieu sait si la littérature à son sujet est quand même très, très, très importante. Donc, j'ai énormément de lecture et de lecture à venir sur Winston Churchill.
La passion pour Winston Churchill, c'est depuis que vous êtes toute jeune ou...
Alors non, c'est... Non. Ma fille avait... maintenant, elle a 35 ans. Ma fille devait avoir une dizaine d'années. On a fait les plages du débarquement. On a visité les plages du débarquement. Et on a commencé par le mémorial de Caen. Alors, si je vous invite un jour, si vous avez l'occasion de le faire, parce que c'est très intéressant. C'est un musée qui est vraiment super bien fait. C'est très didactique. Et ça vous permet de comprendre les événements, parce que c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, comment c'est venu, on ne sait pas, etc. Ouais. Là, tout à coup, on comprend que les racines de la Deuxième Guerre mondiale, elles sont assez lointaines. Et donc, on voit le cheminement, et là apparaît ce personnage qu'est Winston Churchill. Ouais. Et là, tout à coup, la façon dont il le présentait, ça m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, c'est un homme quand même qui était brillant, qui a une histoire un peu particulière, donc... Je me suis intéressée, donc j'ai commencé par lire sa biographie, qui s'appelle Winston Churchill. Et là, j'ai découvert un homme exceptionnel, c'est-à-dire un aventurier, vraiment un aventurier. Quelqu'un qui a vécu 1000 vies, mais de fil en aiguille. Je me suis intéressée à sa vie, à son œuvre, parce que effectivement son œuvre littéraire. Et puis à ce qu'il a fait pendant la guerre, faire un peu d'histoire des idées politiques. En France, on dit souvent que c'est le général de Gaulle qui a sauvé la France. Oui, certainement, il était là. Moi, je pense qu'il a sauvé la France après, mais pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je continue de penser que c'est Winston Churchill qui a sauvé le monde libre.
Oui.
Et effectivement, il a donné la possibilité au général de Gaulle d'exister. Et ensuite, le général de Gaulle, il a permis de moderniser la France quand il a pris le pouvoir. Mais d'entendre dire que c'est le général de Gaulle qui a sauvé la France, souvent, je me dis, il faudrait que les gens relisent un peu leur histoire. Donc, je me permets de temps en temps, de ramener les choses et de remettre l'église au milieu du village.
On pourrait dire que c'est De Gaulle qui a sauvé la France, mais Churchill qui a sauvé De Gaulle.
C'est sûr que s'il n'y avait pas eu Churchill, de toute façon, il n'y aurait pas eu De Gaulle, ça c'est clair. Et quand même, le débarquement en Normandie, qui a eu le débarquement en Méditerranée, ça a été quand même géré par les Britanniques et les Américains, les Alliés. Et les Américains avaient mis très, très clairement le général de Gaulle de côté parce qu'ils ne voulaient pas en entendre parler. Et même les Américains auraient souhaité avoir un pouvoir sur la France. Et là, c'est vrai
qu'ils aient mainmise dessus.
Voilà. Et c'est vrai que là, le général de Gaulle, il a dit « Coucou, je suis là ». Voilà, il a peut-être commencé à sauver... Il a sauvé la France de la mainmise des Américains, mais pas des nazis.
Quels sont pour vous les principaux points qui caractérisent la culture ?
Pour moi, la culture, c'est l'environnement dans lequel on vit, en fait. C'est-à-dire, c'est notre façon de manger, parce que manger aussi, c'est la culture. Ouais. C'est notre façon de nous habiller. C'est l'architecture, parce que voilà, quand vous vous promenez dans une ville, vous avez une architecture, ça fait partie de la culture. Parce que ça fait partie de l'histoire et l'histoire fait partie de la culture. C'est la musique qu'on entend, qui nous entoure. En fait, c'est le monde qui nous entoure et nous, on est là au milieu. Et puis après, on vient piocher, on va s'intéresser à des choses plus qu'à d'autres parce que voilà, on a une sensibilité. Pour moi, la culture, c'est notre environnement. Et nous, on se promène dans la culture et on vient y piocher ce dont on a besoin, ce qu'on a envie. Je dirais que c'est ce qui nous différencie. Et ce qui nous sort de notre, peut-être de notre état animal, en fait, on est des animaux. Hein, et peut-être que là, la culture, c'est ce qui nous permet d'être au-dessus, ouais, qui nous différencie des animaux. Voilà.
C'est une belle définition.
Oui,
merci beaucoup
aussi,
pour cette vision. C'est intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes là-dessus. Oui. Et donc, comme vous avez une vision qui est très globale et haute, on va dire, de la culture, vous pensez que c'est quoi le rôle que jouent les associations dans la promotion de la culture au sein de l'école?
Alors moi, je pense qu'au sein de l'école, le rôle des associations, alors il y en a quand même pas mal, parce qu'on peut mettre, bien évidemment, on peut mettre Prisme, on peut mettre le Bureau des Arts, on peut mettre, j'avais pensé à une autre, mais on pourrait presque mettre Melting Pot aussi sur certains aspects par rapport à la culture internationale.
Mode et moi aussi.
Mode et moi, bien évidemment. Vigno, voyez, ouais. Vous êtes là. Hein, et pourtant, c'est moi qui m'occupe de la vie associative. En fait, c'est pour justement un petit peu sensibiliser les étudiants, faire en sorte qu'ils aillent chercher et qu'ils se rendent compte qu'autour d'eux, il y a tout un tas de choses qu'on peut aller piocher et qui nous font apprécier les choses. Par exemple, Vigno, c'est quand même très intéressant. Quand ils vous font découvrir un vin, les qualités d'un vin, comment on fait pour reconnaître un vin par rapport à un autre. Ça, c'est des choses vraiment intéressantes, plutôt que de se retrouver à boire un vin comme ça. On vous sert un vin, pof, vous le buvez, et ça n'a aucun intérêt, et ça ne développe pas de curiosité chez vous. La curiosité, vous voyez, le mot m'est venu, et je pense qu'il faut s'arrêter un peu dessus. Parce qu'en fait, les associations de BSB en lien avec la culture permettent de développer la curiosité des étudiants. Et la curiosité, en fait, c'est ce qui nous guide tout au long de notre vie pour aller au-delà de ce que l'on est. Donc, ce qui est très à la mode, c'est de dire sortir de sa zone de confort. Ça, c'est une expression qui est très, très à la mode. Ça a 4-5 ans. Avant, on n'entendait jamais parler de ça. Alors, je vais l'utiliser pour montrer que je suis très moderne et que je suis un peu l'actualité. Mais effectivement, ça nous fait sortir un peu de notre quotidien et puis aller nous tester sur des choses et d'autres et développer après notre goût et de nous construire petit à petit en se disant, tiens, en fait, j'aime découvrir le vin, donc je vais aller creuser un peu ce côté-là où j'aime le cinéma, j'ai vu un film, on m'a parlé de ce film, etc. Je vais aller découvrir d'autres films. Voilà. Donc les associations permettent d'entretenir la curiosité des étudiants.
Est-ce que vous avez constaté un intérêt croissant du coup, des étudiants dans les associations pour un côté culturel, que ce soit dans le cinéma, la musique ou les podcasts? Bon, après, il y a plein d'autres choses, que ce soit aussi le monde du vin ou de la mode.
Comme ça, à brûle pour point, j'aurais tendance à dire que j'ai... Alors, c'est une impression, mais je me trompe vraiment certainement. Donc, je vous le dis quand même parce que ça me passe par la tête. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont quand même... prennent du temps aux étudiants. Et la culture, ça prend aussi du temps, c'est-à-dire lire, s'intéresser, discuter, échanger des idées, ça prend du temps. Donc à un moment donné, les journées ont 24 heures, donc c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'on a rajouté des heures à la journée. Donc la sensation que j'aurais, c'est que les étudiants, en fait, s'intéressent qu'aux réseaux sociaux. Alors bon, je pense que c'est une vision un peu de vieux schnock que je peux avoir de temps en temps, mais j'ai l'âge que j'ai, je voilà, et en fait quand je discute à, quand voilà, on va gratter aussi et que je discute avec les étudiants, je m'aperçois en fait que vous avez quand même beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de passions, alors même des fois des choses que moi-même je ne connais pas, mais voilà, ça fait partie de l'évolution du monde. Par contre, ce qui est différent, c'est que c'est beaucoup plus confidentiel que ça n'a pu l'être à une époque où les étudiants avaient tendance à beaucoup s'exprimer, être plus vivants sur le campus, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que vous avez tendance à vivre vos passions de façon beaucoup plus confidentielle. Donc ça se voit peut-être moins. Donc c'est pour ça que ça peut m'amener à dire que les étudiants s'intéressent moins. Mais en fait, je ne pense pas que les étudiants s'intéressent moins. Vous gardez plus les choses pour vous.
Tout à fait.
Et en rapport avec ce que vous venez de dire, vous disiez que les réseaux sociaux pouvaient être un risque. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent aussi être un risque pour la culture, pour cette espèce d'uniformisation? Quand on dit par exemple qu'il y a des modes, justement, comme vous disiez, avec sortir de sa bulle, et du coup tout le monde essaye de faire un peu la même chose, de rentrer dans une case qu'on nous offre, est-ce que vous pensez que ça reste ça pour la culture?
Alors, moi, je ne suis pas une fan des réseaux sociaux. Hein. Alors, autant vous dire que TikTok, alors paraît-il que TikTok, Instagram et tout, c'est très, très à la mode chez les étudiants. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, c'est mon analyse hein, et je me trompe peut-être. Les réseaux sociaux, quand on voit beaucoup les influenceurs qui vont venir vous raconter, vous dire, tiens, faut lire tel truc, faut faire tel truc, etc. Moi, alors là, moi, le truc de l'influenceur, pour moi, j'ai pratiquement lutté toute ma vie pour ne pas être influencé, pour ne pas être sous le joug de quelqu'un et de garder une espèce de liberté. Et là, quand j'entends parler des influenceurs, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, il semblerait que ce soit un métier qui soit très, très à la mode chez les jeunes et qu'il y ait beaucoup de jeunes qui veulent être influenceurs. Bon, là, vraiment, je me dis, pff, qu'est-ce que c'est que cette mode? Donc, moi, j'ai peur que les réseaux sociaux, en fait, fasse circuler une culture qui est la culture que tout le monde doit avoir et ne laisse pas la liberté à chacun de construire son propre bloc ou cursus de culture, on pourrait appeler ça comme ça. Mais peut-être que je me trompe parce que, comme je vous l'ai dit, moi, le seul réseau social dans lequel je suis, c'est Facebook, donc autant dire que c'est bien marqué avec mon âge, parce que ça me permet de savoir, de pouvoir suivre les diplômés de l'école et les étudiants et de souhaiter les anniversaires. Voilà, c'est uniquement comme ça que j'utilise les réseaux sociaux. Parce que je trouve que maintenant, on voit des fois des trucs, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intéressantes à faire? Mais bon, après, c'est une évolution de la société, il faut l'apprendre comme ça aussi.
Et si vous deviez recommander une œuvre culturelle aux étudiants pour les inspirer dans leur vie associative, ce serait laquelle?
Une œuvre culturelle.
Ou même une citation, si vous voulez.
Oui.
Je pense, si vous
attention, le Winston Churchill.
Ah, bah oui, bien sûr, bien sûr. On a libéré les anciens bureaux des associations. Il y avait, au sein de la junior entreprise, il y avait un grand, grand bureau. Et il y avait une citation de Winston Churchill. Donc, et je pense que c'est très inspirant parce qu'en fait, ça permet à chacun de suivre son chemin et de ne jamais lâcher. Voilà, never give in.
Okay.
Never, never, never. Vraiment, c'est un souhait que j'ai, et parce que c'est comme ça que j'ai construit ma vie. Il faut suivre son chemin et ne pas trop se préoccuper de ce que les autres pensent, disent. Parce que les autres pensent, disent, eh ben, ils ne vivent pas votre vie. Donc, restez focus sur vos envies, vos choix, ce que vous voulez faire de votre vie. Et ne lâchez rien et ne cédez jamais rien.
Quels sont les défis que vous rencontrez pour soutenir les associations culturelles au sein de l'école?
Alors moi, j'en parlerai plus largement des associations en général, hein, parce que
oui.
Voilà, pour moi, le plus gros défi, c'est de mobiliser les étudiants. J'espère, je suis très optimiste hein, de nature, j'espère que là, avec les nouveaux étudiants qui sont arrivés, les bachelors 1, les pré-masters, on va avoir, je dirais, une génération voilà, qui est un peu plus impliquée ou en tout cas qui a envie de s'impliquer. Pour moi, c'est ça le défi, c'est l'implication des étudiants pour faire vivre les associations et s'impliquer dans les associations, mais aussi l'implication et l'engagement des étudiants pour participer aux événements des associations.
Aussi, ouais.
Je veux dire, s'il y a un problème, genre, je sais pas, d'engagement ou de volonté de se bouger, alors que j'arrive pas à comprendre. Alors, il y a certainement de bonnes raisons, mais j'arrive pas à comprendre.
Et on pourrait peut-être aussi rebondir sur du coup, ce que vous disiez avant, peut-être un problème de réseaux sociaux aussi.
Ben voilà.
Où derrière, les gens préfèrent rester cloîtrés chez eux et ne pas faire de projet, et préfèrent regarder les choses directement à travers un écran. Quoi.
Donc, ouais, il se peut que ce soit ça. Alors que la vie associative, alors, et après, effectivement, les projets culturels, bien évidemment, ça permet ben, de se connaître, de développer des compétences, de s'enrichir. Et derrière, donc, les étudiants vont se retrouver en situation ben, de recherche de stage ou de premier emploi, ben, d'apporter des choses complémentaires à un diplôme qui, somme toute, est à peu près, voilà, les écoles, dans toutes les écoles, il y a à peu près les mêmes cours, etc. Donc, c'est bien l'étudiant, c'est bien la personne qui va faire la différence. Et bah, le fait de s'engager, de s'intéresser à la culture, etc., ce sont des éléments différenciants pour après, bah, devant un recruteur, dire « c'est moi qu'il vous faut », évidemment.
C'est ça.
Donc, vous, de votre point de vue, vous devez vraiment voir les choses avec des vrais chiffres, des vraies valeurs. Vous voyez vraiment qu'il y a une baisse de l'intérêt des étudiants, c'est pas juste une baisse de nombre d'étudiants ?
Bien évidemment.
Une corrélation.
Il y a moins d'étudiants, s'il y a moins d'étudiants, bien évidemment. Mais quand on voit le nombre d'étudiants qui se sont inscrits au week-end d'intégration, par rapport au nombre de nouveaux étudiants, on aurait pu attendre un peu plus d'étudiants que ceux qui sont inscrits. Donc effectivement, il y a certainement un élément en corrélation avec le nombre d'étudiants global. Mais c'est aussi un manque d'envie de s'engager des étudiants.
Quel a été l'événement culturel le plus marquant organisé par une des associations de BSB, selon vous ?
J'en verrai deux, mais alors là, je vais remonter au calendrier grec. Hein, si... Alors, c'était le premier défilé de mode, et moi. Les étudiants, en 90, ils ont contacté Paco Rabanne et il a dit oui. Et là, je pense qu'ils ont été les premiers surpris. Mais en tout cas, ça a marché.
Oui.
Et il est revenu l'année d'après. Du coup, j'avais eu la chance d'aller dîner avec Paco Rabanne et les membres du jury. Et c'était un moment exceptionnel. Faut pas avoir peur. Parce que ils ont contacté Paco Rabanne. Et Paco Rabanne a dit oui. Et il aurait très bien pu dire non.
C'est vrai.
Mais il a dit oui. Mais c'est sûr que si vous le contactez pas... Je veux dire, quand vous voulez, vous imaginez de vous organiser un événement et vous vous dites... Tiens, on va contacter un tel ou un tel parce que... Il faut essayer. Le seul risque que vous avez, c'est qu'ils vous disent non. Parce qu'il ne peut pas, parce que pour plein de raisons. Mais il faut oser. Et quand un étudiant va contacter une personne, disons une personnalité, pour dire, ben voilà, on a un projet, l'étudiant défend son projet et montre sa conviction de réussir ce qu'il a envie de faire, etc. Quelquefois, un étudiant, il peut embarquer quelqu'un. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire aux étudiants. Et il y a eu un autre événement, c'était un événement qui s'appelait Les Fugues. C'était un festival artistique européen étudiant. Okay. Donc, en fait, les étudiants dijonnais offraient une scène à Dijon à des artistes qui venaient d'écoles et d'universités de toute l'Europe. Et donc, ça durait 3 jours. Donc, la journée, il y avait des podiums dans Dijon, avec ces artistes qui me présentaient leur numéro. Et puis, pendant 2 soirs, il y avait des soirées éliminatoires. Et le samedi soir, il y avait le grand show avec les numéros qui avaient été sélectionnés. Et après, il y avait une remise de prix avec un jury. Et ça, vraiment, c'était, ça faisait vivre la ville. C'est pareil, c'était dans les années 90-95.
Donc, du coup, il y avait des scènes dans la rue directement pour les habitants de Dijon puissent profiter
Exactement, voilà.
Ok, donc ça, c'est vraiment intéressant.
Donc,
c'est vrai que ça, on ne le voit pas du tout.
Ben non, non, non.
Ouais,
déjà dans nos propres cours.
Oui, c'est ça.
Ça y est, quelque chose.
Donc, non, voilà, c'était très, très chouette. Voilà. Ça m'a marqué. Alors après, vous allez dire, oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, mais le fait de vous en parler aujourd'hui, c'est de vous dire que c'est possible. Donc, il faut être ambitieux et de se dire, oui, on va faire un truc, c'est possible. Alors par contre, qu'on soit bien clair, ça demande du travail.
Ah oui,
c'est sûr.
Et là, si vous aimez, ça ne se fait pas en claquant. Et ça, c'est peut-être la limite que je vois chez les étudiants aujourd'hui. C'est que cette notion d'avoir un projet, d'y travailler, parce que là, les étudiants, vraiment, ils y passaient une année et ça se passait de mandat en mandat, voilà. Et ça demandait un travail de dingue, en fait, les autorisations et tout. Mais c'est possible si on travaille.
Oui.
Et ça, dans la vie, c'est valable pour tout.
Oui, il n'y a rien sans rien.
Exactement. C'est possible à BSB d'avoir des projets ambitieux. Vraiment.
Il faut juste du coup y croire et travailler derrière, quoi.
Voilà, puis embarquer une équipe et puis courageuse, avec des. Voilà, tout le monde travaille dans le même sens. Et c'est pas moi qui me mets en avant plutôt que toi, c'est on travaille tous main dans la
C'est
main
une équipe.
et c'est un travail d'équipe pour la réussite d'une équipe.
Mais je crois bien qu'on s'approche bientôt de la fin. Il reste une dernière question. À vous de voir si vous voulez y répondre ou non. Avez-vous eu des expériences pendant votre vie que vous trouvez compliquées ou difficiles à surmonter? Et du coup, si vous ne souhaitez pas partager ces expériences, est-ce que vous nous donnerez donc la leçon que vous en avez tirée? S'il vous plaît.
Alors, ça ne va pas du tout me déranger d'en parler parce que je trouve que pour moi, c'est une façon aussi de partager avec les étudiants et de dire qu'il ne faut jamais rien lâcher, il faut y croire. Donc, ma fille, qui est née en 1989, est née avec une maladie qui a développé chez elle un handicap visuel. Elle a un œil aveugle et de l'œil avec lequel elle voit, elle a une très très basse vision. Dans la vie, il y a deux solutions. Soit je me laissais couler en disant voilà, je suis malheureuse, mon Dieu, que la vie est triste, etc. Et du coup, j'entraînais aussi ma fille dans l'histoire et tout. Ou alors, je décidais de me battre. Alors évidemment, j'ai
Option
décidé de me battre. Et peut-être qu'il y a un lien avec Winston Churchill après, derrière, qu'on se rend compte peut-être sur ce côté de ne jamais rien lâcher. Et donc, ma fille, elle a fait des études normales, elle a vécu normalement. Elle a d'ailleurs diplômée de l'école, elle a fait une classe
Okay.
prépa. Donc en fait, ce handicap, alors que c'est vrai qu'à l'époque, on me disait toujours chaque année quand j'allais l'inscrire à l'école, on me disait oh là là, parce qu'il faudrait la mettre dans une éducation spécialisée, etc. Et moi donc chaque année, je me battais pour dire mais non, pas du tout. Alors on me faisait plus ou moins, on me posait des questions sur le fait qu'il pouvait y avoir un handicap intellectuel associé. Je disais bon alors là, ça c'est votre méconnaissance totale du handicap, hein, puisque je vois pas pourquoi. Un handicap sensoriel pourrait être lié à un handicap mental, mais bon, la folie et des gens, ou en tout cas les peurs, parce que je pense que c'est plutôt lié à des peurs, font que les gens après pensent n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ma fille, elle a construit sa vie, hein, donc, et d'ailleurs, je vais être grand-mère dans un mois et demi, donc vous voyez,
Félicitations.
merci. Donc le fait de se battre et de ne jamais rien lâcher, d'y croire et de dire à Camille, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, ça sera peut-être plus dur pour toi que pour les autres, mais tu vas y arriver. Ben, aujourd'hui, Camille, elle vit sa vie, elle vit son chemin. Donc la leçon que j'en ai tirée, ben, c'est ça, c'est de ne jamais rien lâcher et d'y croire et de faire confiance quand même à la vie et de se dire, ben voilà, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, on n'a rien sans rien. Et c'est vrai que, alors il y a une maxime, alors c'est pas de Winston Churchill, mais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pour développer des choses intéressantes et se sentir fier de ce qu'on a réussi, ben voilà, il faut sortir les tripes et puis il faut y aller. Voilà. Et donc je suis très très fière de ce que j'ai réussi, mais je suis encore beaucoup plus fière de Camille, qui est vraiment ma plus belle réussite.
Je pense que c'était une très bonne conversation avec vous.
C'était un super moment, merci infiniment.
Merci à
Merci à
vous.
vous.
C'est l'optimisme, oui l'optimisme. C'est l'optimisme de prise. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer.